La séquence littéraire de Monique.
Un grand bonjour, je vais dire ma Monique aujourd'hui, je me permets de vous tutoyer Monique, parce que vous allez me mettre dans une situation que je qualifierai d'agricole.
Oui Pierre, pour une fois, vous allez être ingénieur agronome spécialisé dans les cucurbitacées.
Eh ben voilà,
mais
On vous aura tout fait faire,
mais auparavant, je vais parler d'un mois d'août à moi. Le mois d'août est très important dans ma biographie, puisque c'est le mois de mon anniversaire et de ma fête. C'est aussi le mois où j'ai atterri à Majorque pour y vivre définitivement. Il y a longtemps de cela, puisque j'ai atterri à l'aéroport de Sonbonnet. Le nouvel aéroport de Palma étant alors en construction. Le mois d'août, c'est aussi la pleine saison à Majorque et la sensation éternelle d'une chaleur torride et moite dans la cuisine de notre petit restaurant familial. Heureusement que la mer, juste en face, léchait le sable fin et doré de la plage. Chaque après-midi, aux environs de 5 heures, j'enfilais un bikini. J'en avais toute une collection. Et me plongeais avec délice dans la tiède Méditerranée. L'eau était si bonne qu'elle rafraîchissait à peine, mais la caresse des petites vagues me détendait comme un massage suave. Quel plaisir!
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit titi 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 winni, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois.
Voilà ce qui arriva.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins.
1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi?
Son petit titi 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 oui.
Voilà ce qui arriva.
Le temps a passé et depuis l'aéroport de San Juan a déjà été modifié plusieurs fois pour s'adapter à l'avalanche de touristes. Les grandes compagnies d'aviation et leurs tarifs dissuasifs doivent maintenant concurrencer avec les compagnies low cost. Hélas, le temps a passé aussi pour moi qui jouit quand même d'une retraite bien méritée depuis bientôt 10 ans. Pour me remettre animiquement de tous ces mois d'août si éprouvants, maintenant que je le peux, je me sauve en France à cette époque et je profite du climat plus tempéré de la Haute-Savoie en été. C'est là qu'il y a 5 ans en arrière, je me suis trouvée confrontée à un problème de concombre espagnol. Pour en parler, je passe le micro à Pierre, qui veut bien se mettre dans la peau de ce cucurbitacé. Merci, Pierre.
Monique, je suis quand même surpris du rôle végétal que vous voulez que j'assume. Mais s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je veux bien prendre la parole au nom du concombre, soit Cucumis siticaris, selon la classification du scientifique suédois Charles Linné. Entre nous soit dit, ce botaniste ne m'a pas gâté, il s'est même acharné contre moi. Pourquoi m'avoir traité de concon ou de cucu à la fois? Franchement, je ne le mérite pas. Et je vais me défendre. Je suis un légume, en fait un fruit, qui pousse à même le sol à partir d'une tige rampante, vite envahissante. Je suis de la même famille que la courgette, la courge et même le melon. J'ai une forme oblongue qui peut atteindre 15 à 20 cm selon l'espèce. Ma peau vert foncé présente un aspect rugueux, très rustique. Quand on me pèle, on découvre un intérieur lisse, d'une teinte vert pâle, et si on me pratique une coupe transversale, on s'émerveille devant mon cœur vert pastel en forme de rosace sertissant mes précieuses graines. Je pousse facilement, sans trop d'exigence, sur n'importe quel terrain, bien à l'abri du soleil direct, grâce à mes larges et épaisses feuilles, ce qui me permet de garder toute ma fraîcheur interne. Justement, mon action rafraîchissante est bien connue. Les recettes de beauté, depuis longtemps déjà, me recommandent pour soulager, coupé en rondelles, le contour des yeux fatigués. La bioesthétique, très à la mode, parle même de préparer un masque décongestionnant pour les peaux couperosées, simplement en triturant ma pulpe et en l'appliquant sur le visage. Économique et, paraît-il, efficace. Quant à la cuisine, je devrais intégrer toutes les salades d'été, tant je suis désaltérant et croquant. En Espagne, où l'on m'appelle Pépine, dans les mois de mai à octobre, on mange souvent en entrée une soupe froide et délicieuse, le gazpacho, à base d'oignons doux, de tomates, de poivrons et bien sûr de concombres. Le tout broyé au mixeur et réservé 3 bonnes heures au frigo. En complicité avec le yaourt nature, un peu de sel, de poivre, de jus de citron et d'huile d'olive, je me transforme en tzatziki, c'est-à-dire une sauce crémeuse que les Grecs emploient pour condimenter les salades et les viandes froides. À la télévision, dans une publicité de Schweppes, j'ai vu récemment une nouveauté. Une belle rondelle de concombre remplace la traditionnelle tranche de citron dans le gin tonic. Voilà, mon avenir est assuré. Mes pouvoirs, rafraîchissants et tonifiants, s'expliquent par ma composition même. Pour 100 g de poids total, j'ai 97 g d'eau. De plus, je suis riche en phosphore, en potassium et j'amène de la fibre et des vitamines A, C et E. Je ne veux pas paraître vantard, mais je m'estime un excellent végétal, salutaire, pouvant s'intégrer sans problème dans n'importe quel régime d'amincissement. Un conseil de dernière minute. Pour bien me choisir, prenez des unités très fermes et à la peau bien vert, uniforme. Mais attention, quand vous me manipulez, parfois je casse quelques piquants au niveau de la naissance de la tige et ça fait mal. L'Espagne en particulier, l'Andalousie et les Canaries est mon premier producteur et exportateur en Europe. En 2010, ma culture a généré 370 millions d'euros, ainsi que de nombreux emplois. Hélas, l'été de 2011, on m'a accusé d'avoir provoqué une épidémie mortelle de E. coli en Allemagne du Nord. Les Allemands sont très friands des concombres, surtout des spécimens courts et dodus, qu'ils conservent à l'aigre doux. On m'a appelé Gurken et on me mange tel quel en garniture des plats de charcuterie, toute la gamme des Wurz.
Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Wir versaufen unser Oma, ihr klein Häuschen, klein Häuschen, klein Häuschen. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen mit der ersten und der zweiten Hypothek. Ja, wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, klein Häuschen, klein Häuschen. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen mit der ersten und der zweiten Hypothek. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen.
on m'a signalé comme le vecteur de la terrible bactérie E. coli, sans même avoir pratiqué des analyses sérieuses. Et l'Europe affolée, à tort, a interdit mon importation. J'en suis tellement blessé dans mon orgueil de cucurbitacé que je vais devenir grossier et je préfère céder la parole à ma compère compréhensive amie Monique.
C'est également avec indignation que je reprends le micro au pauvre concombre espagnol, vraiment choqué par son injuste déclassification. J'adore ce légume si rafraîchissant, si croquant et à l'arrière-goût amer et tonifiant. D'ailleurs, je le connais, on peut dire, depuis toujours, puisque notre père, à Tonon, en plantait au fond du jardin sur un tas de terre où il se multipliait allègrement en cascade végétale. C'était même très beau à voir. Le concombre ne réclame aucune attention et surtout supporte bien la sécheresse. Le fait de ramper empêche une grande partie de l'évaporation en hauteur. Alors, je me demande bien pourquoi l'Allemagne a pu l'accuser d'être porteur de la mortelle bactérie E. coli, quand on sait que cette bactérie provient d'eau putride et que lui, le concombre, pousse avec peu d'arrosage. Au mois d'août 2011, j'étais à Tonon, comme chaque été depuis ma retraite, et quand j'allais faire mes courses au supermarché, je mettais toujours dans mon panier quelques beaux et fermes concombres. Il y en avait un gros étalage sous un écriteau précisant « Provenance Espagne ». Dieu sait si j'ai mangé de ce légume soi-disant pestiféré, en assaisonnement bien sûr, ou simplement avec quelques cristaux de sel de Guérande. Même un jour, pour accompagner des darnes de saumon grillé, j'ai servi du concombre à l'étouffée avec de l'ail et une tombée d'huile d'olive. Quel régal ! Eh bien, malgré tout, je suis toujours en vie, ainsi que tous mes invités. Un peu plus tard, la télé nous montrait avec insistance des bennes surchargées vidant aux ordures des tonnes de concombres d'Andalousie, parfaitement sains de corps et d'esprit. Quel gaspillage ! J'en avais les larmes aux yeux. L'Allemagne a dû s'excuser auprès du ministère de l'Agriculture espagnol pour avoir provoqué un tel gâchis sans aucune preuve scientifique. Et même plus tard, avec le recul, on a appris que, en réalité, les Allemands eux-mêmes seraient responsables de la bactérie E. coli pour avoir arrosé leur propre plantation de concombres avec des eaux fécales mal dépurées. Brouh, c'est vraiment pas ragoûtant. L'Union européenne s'est compromise à indemniser les pertes millionnaires des producteurs et exportateurs, mais le mal était fait et la Russie, pendant toute une année encore, refusa l'entrée du concombre espagnol. Pauvre de lui. Et pour terminer mon apologie du Cucumis sativus, je vais conter une petite anecdote véridique. Le matin même de l'annonce médiatique du soi-disant mortel légume espagnol, dans mon supermarché tononnais, l'écriteau précisant l'origine des concombres avait changé comme par magie. On ne lisait plus « provenance Espagne » mais « provenance France ». Le tour a été vite joué. Attenzione, attenzione! Que les Italiens prennent garde. L'année prochaine, l'Allemagne risque de les dénoncer pour exporter le terrible brocoli. toujours en août, cette fois en 2010, je me suis rendue comme d'habitude à Thonon, où j'ai amené mon petit-fils Gabriel, de 10 ans à l'époque. Gabriel avait à faire un devoir de religion sur la visite d'une église. Je l'ai conduit à la basilique Saint-François de Sales, de style néo-gothique, qu'il a jugée trop haute, trop vaste, avec trop de vitraux peuplés de personnages lumineux par transparence, et surtout avec des piliers démesurés en épaisseur. Sur ce point, je donne raison à mon petit-fils. À son âge et jusqu'à l'adolescence, on m'a fait suivre la grand-messe derrière un de ces piliers énormes, celui d'en face de la chaire, soi-disant pour mieux écouter le prédicateur qui postillonnait toujours les mêmes sermons au long de l'année. Je ne voyais pas l'autel et je m'ennuyais souverainement. En fait, ces piliers sont formés de colonnes soudées et raccordées entre elles. Dans l'architecture gothique, on les appelle piliers à ondulation. Personne n'a obligé mon petit-fils à suivre les cours de religion. Au début de l'année scolaire, il y a 6 ans, il a décidé de lui-même de s'inscrire et il est passionné. Il faut dire aussi que maintenant, on n'enseigne plus la religion comme de mon temps, sous la menace perpétuelle de l'enfer et son imagerie médiévale terrifiante. Un diable avec des cornes, des pieds de bouc, une queue fourchue et une sorte de trident pour pousser les méchants dans le feu éternel. Vraiment, je suis née trop tôt. Par contre, l'église Saint-Hippolyte, de massive construction romane, enthousiasma Gabriel. Il la trouva plus sobre, plus austère, d'une dimension plus à l'échelle humaine. Pour lui, une église doit être un lieu portant au recueillement et non à la distraction à cause de la surabondance des ornements. Il apprécia que toute l'importance soit donnée à l'autel, la pierre du sacrifice, comme il me le rappela. Mon petit-fils, qui avait pris son cahier et son stylo, cherchait une table pour pouvoir mieux s'appliquer dans la description de l'église. Le petit portail de la balustrade qui ferme le chœur était grand ouvert. J'en ai déduit que l'on pouvait y pénétrer. Gabriel, sans aucune arrière-pensée, installa son cahier sur l'autel et se mit à la tâche. Auparavant, je lui avais expliqué en gros les caractéristiques de l'art roman, c'est-à-dire l'arc en plein cintre, l'étroitesse de la nef, pas de rosace derrière l'autel. L'épaisseur et le peu d'ouverture des murs ont disparu avec le style gothique et ses très élégants arcs-boutants. Moi, pendant ce temps, je m'asseyais au fond de l'église pour méditer, profitant du clair-obscur et du moment de tranquillité. Je regardais Gabriel, très attentif face au tabernacle, la hauteur de l'autel juste à sa mesure. Il écrivait et dessinait tout ce qu'il voyait, comme le lui avait recommandé le professeur de religion. Une vieille femme, sans doute de mon âge, entra dans l'église à pas menus, comme si elle avait peur de réveiller quelqu'un. On était en pleine canicule, mais elle arborait sur sa maigre poitrine un corsage à manches longues boutonné jusqu'au cou. Elle s'arrêta net d'avancer, comme tétanisée par la vision du gamin en train d'écrire sur l'autel. Elle ne prononça pas un mot, mais battit en retraite, tressaillant d'indignation. Sûrement une punaise de sacristie. Je ne m'en inquiétais pas davantage, mais tout à coup, je réalisais que la petite veilleuse rouge de l'autel était allumée. Donc, il y avait des hosties consacrées dans le tabernacle. Le fait que la grille du chœur soit ouverte m'avait suggéré le contraire. Surtout que l'église Saint-Hippolyte se transforme parfois en auditorium où l'harmonie thononaise donne des concerts de musique sacrée. Les musiciens s'installent alors dans le chœur. À craindre. Sûrement que la vieille, scandalisée à mort, était allée se plaindre à monsieur le curé. Je pressentais le danger, mais ne tenais pas à distraire mon petit-fils, qui n'entendit même pas la porte de l'église claquer pour laisser rentrer un monsieur sans soutane, mais avec un faux col de clergyman. Je ne bougeais pas de mon séant dans l'expectative des événements. Le prêtre fit semblant de remettre en place une file parfaite de chaises au premier rang, tout en observant mon petit-fils appliqué respectueusement devant le tabernacle. L'homme le regardait sans comprendre ce qui se passait réellement. J'eus même l'impression que la vieille lui avait rapporté des faits plus scandaleux que la réalité et qu'au fond, il se sentait soulagé de ne pas avoir à intervenir en plein sacrilège ou en pleine bacchanale. La situation dut lui paraître juste un peu anormale, mais il n'émit aucune réflexion, aucun commentaire et sortit sans nous avoir chassés du temple. Gabriel, qui, dans sa concentration, ne s'était aperçu de rien, descendit les marches de l'autel, son cahier et son stylo à la main, heureux du devoir bien accompli. Je dois reconnaître qu'il avait fait une méticuleuse description de l'église, écrite, si l'on peut dire, religieusement en face du tabernacle. Au cas où le prélat, d'ailleurs dans tout son droit, aurait fait un reproche à mon petit-fils, je lui aurais simplement rappelé les paroles de Jésus. « Laissez venir à moi les petits-enfants. » La semaine suivante, Gabriel voulut revoir pour le plaisir cette architecture romane qui l'avait tant inspirée. Cette fois, la porte de la grille du chœur était fermée et sur la gauche, un petit écriteau avertissait en ces termes. Le cœur est un lieu sacré, on est prié de ne pas y pénétrer. Qu'à cela ne tienne, le devoir de religion était terminé et ficelé avec foi et amour.
Merci pour cet agréable moment passé avec vous dans le cœur d'une église et aussi pour votre prise de parti pour défendre le concombre espagnol. Vous avez là été une véritable égérie. Alors, merci et au mois prochain.
Merci Pierre et évidemment au mois prochain pour parler de septembre.
Voilà, bonnes vacances.
Merci Pierre, oui, puisque je m'en vais le 13 en France.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt.